Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on a un épisode qui va être, je ne sais pas comment il va être en fait cet épisode. Ce qui est sûr, c'est qu'on va parler d'Apple et des annonces de la semaine dernière. On va aussi parler du portail des enfers, de la porte des enfers avec les réseaux sociaux qui se mettent à censurer les choses qui ne leur plaisent pas. Je caricature, mais c'est pour donner un petit effet. On aura d'autres petits sujets. Mais la raison pour laquelle je dis que je ne sais pas comment ça va se passer, c'est que nous sommes dans un épisode enregistré le soir parce que mon fils est malade. Et on a, moi aussi, je suis un petit peu malade. J'ai des aphtes dans la bouche, j'arrive pas à bien parler, j'ai le nez qui coule. Enfin, c'est terrible. C'est pas le Covid. Enfin, je pense pas. Hein. Je me suis fait tester pour la troisième fois depuis la rentrée et j'aurai les résultats demain ou après-demain. Donc, je pense pas que ça soit le Covid. C'est juste mon fils qui a chopé un petit rhume ou une petite grippe. Et ça devrait aller. Mais du coup, je parle pas trop fort parce qu'il dort à côté. On est le soir, mais on n'est pas suffisamment le soir pour avoir Jeff, parce que j'ai dû avancer un petit peu l'enregistrement pour pas me coucher trop tard, parce que le petit, lui, il n'est pas garanti de faire sa nuit du tout. Et du coup, on a, j'allais dire, on n'a que Marion, mais ça serait lui faire une offense, mais un disservice terrible, parce qu'on a quand même Marion. Comment ça va, Marion?
Bah écoute, bonjour Patrick, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis ravie de revenir et de parler un petit peu de toutes les actus tech là, qui foisonnent ces derniers jours.
Il y a quelques trucs sympas. Il y a Apple, évidemment, dont on va parler dans un instant. Ne vous impatientez pas trop. J'arrive pas à parler. J'ai un truc qui me fait mal sur la langue. Pardon, c'est dégueulasse. Mais il y a aussi des sujets un petit peu plus sérieux. Mais vous allez voir, je vais vous résumer ça de manière passionnante. Et puis, je te disais avant de lancer l'enregistrement que ça me fait tout bizarre parce que depuis un mois, on est sur Twitch en live pour les enregistrements. Et là, ce n'est pas le cas, évidemment, parce que je ne veux pas risquer l'interruption avec le petit et tout. Mais c'est super bizarre de ne pas... en fait, depuis que je suis sur Twitch, j'ai encore plus l'impression de faire l'émission avec des potes. C'est-à-dire qu'avant, c'était juste les potes qui participaient à l'émission. Mais là, il y a en plus tous les potes autour, les fidèles, la communauté. On dirait presque que Twitch a des communautés est conçu pour l'interactivité avec les communautés. Patrick découvre les chatrooms. C'est après, je ne sais plus quand c'était, il y a genre un an ou deux ans, Patrick découvre les stories, c'est Patrick découvre Twitch. Non, je connais Twitch, j'ai déjà streamé, je connais bien depuis longtemps. Mais pratiquer, c'est quand même sympa.
Et tu me disais écoute, moi j'ai découvert. Moi, j'ai fait mon baptême de live Twitch. Là, j'en ai fait deux. Donc, tu vois, ça fait juste deux semaines que j'en fais. Et c'est assez impressionnant la différence entre faire un live sur YouTube et faire un live sur Twitch, quoi. C'est là où on se rend compte un petit peu de comment la plateforme a été conçue pour l'interactivité, pour nourrir ce sentiment de communauté avec le train de la hype, les interactions, les votes. Tu vois, on stream Baldur's Gate également en ce moment, là, on s'amuse avec Jérôme et on peut permettre aux personnes qui sont à chatroom de voter pour le choix qui va influencer sur l'histoire du jeu et le storytelling. C'est assez excellent, quoi.
C'est marrant parce que effectivement, on pourrait se dire, et là on parle un petit peu de tech, mais on pourrait se dire, un truc de streaming, c'est juste un truc de streaming, ça va pas changer grand chose. Et tant que vous pouvez envoyer de la vidéo, tel service est équivalent à tel service. Mais en fait, la base, oui, peut-être, vous allez envoyer la vidéo. Mais il y a plein d'éléments à côté qui sont presque la définition de la concurrence dans la tech. Quand ça marche bien, c'est les petits à côté, les améliorations de l'expérience utilisateur qui font qu'on va préférer tel service à tel autre. Et ouais, donc toi, pour le cas de Twitch, t'as l'air assez convaincu, quoi.
Ouais, ouais, c'est assez. Mais même, il y a des choses qui paraissent maintenant que je connais un petit peu plus évidentes, notamment la fonctionnalité de raid sur la plateforme. C'est-à-dire, tout l'enjeu d'une plateforme de vidéo, c'est de ne pas perdre son public. Et donc, évidemment, quand un live se termine, pouvoir rediriger son public vers une autre chaîne, ça paraît complètement logique, en fait. Tu veux entretenir ce live constant comme ce que tu as, en fait, à la télé, c'est-à-dire un programme ininterrompu. Et voilà, ils ont vraiment poussé la définition de qu'est-ce que c'est un live, qu'est-ce que c'est une plateforme qui est définie par le live avec Twitch, quoi. Et là, on sent les années de retard de YouTube. Enfin, je suis pas en train de jeter la pierre à YouTube, hein, mais c'est juste, ça vient pas du même endroit.
Bah, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, on pourrait se dire, bah, YouTube, c'est Google. Enfin, déjà, YouTube tout seul, c'est énorme. Donc, évidemment qu'ils peuvent faire aussi bien que Twitch. Mais en fait, YouTube, c'est pas leur cœur de métier. Et ils ont beau être aussi énormes qu'ils veulent, on ne sait pas si c'est parce qu'ils ne se concentrent pas sur tel type d'activité sur YouTube ou si c'est parce qu'ils ont une grosse machine derrière qui est plus lente et donc ils n'arrivent pas à développer le produit autant. Mais c'est vraiment intéressant de constater que même avec un énorme acteur comme YouTube, je ne dis pas Google parce que c'est vraiment YouTube, bah, ça peut faire en sorte que tu réussis pas à rattraper ton retard. On en parlait à d'autres sujets à un autre moment, mais c'est à propos de Google et des services de streaming, je crois que c'était dans le rendez-vous jeu, mais c'est vrai que ça peut être un peu contre-intuitif, ou au contraire, certains diront, bah oui, évidemment, c'est effectivement le problème, mais c'est quand même surprenant, quoi.
Bon. Oui, et puis je pense qu'il y a un autre problème avec YouTube, c'est-à-dire qu'ils ils ont pas le même type de producteur de contenu, et souvent le fait de rediriger une communauté ou un public vers un autre programme, ça va pas aller dans le sens de la chaîne d'origine, en fait. Là, tu vas avoir des intérêts qui vont se percuter, en fait. Alors que sur Twitch, comme le live, c'est l'ADN de la plateforme, cette envie de garder sa communauté tout le temps divertie fait partie de l'ADN Twitch en live. Alors que YouTube, au final, c'est un à côté, c'est un développement.
Et puis, c'est vrai que Twitch réussit à cultiver cet esprit de fête, quoi. Chaque live est une fête communautaire, alors que j'ai l'impression que sur YouTube, c'est juste, bah, bon, c'est un peu une vidéo que tu regardes en live plutôt que pas en live, mais ça pourrait être une conférence d'un constructeur, tu vois, la conférence d'Apple, par exemple, bon, bah, tu peux la regarder en live sur YouTube ou ailleurs, tu t'en fous, alors que sur Twitch, quand tu es en live, oui, tu peux regarder des conférences, mais en général, l'essentiel de leurs produits, c'est des grandes fêtes communautaires. Et c'est vrai que ça se ressent, même si tu n'utilises pas les fonctions communautaires, ça se ressent dans la communauté, dans le type de personnalité qui se développe dessus. Enfin, et ça imprègne toute la plateforme. Donc, très intéressant.
Ouais, complètement. Et on l'a vu ce week-end là, avec The Event et l'argent qui a été levé, etc. C'est quelque chose qui serait plus difficile à reproduire, en tout cas l'engouement et le fait de motiver les gens à lever des fonds, ce qu'on peut voir à la télé aussi, ce serait un peu plus difficile sur YouTube, je pense.
C'est sûr. Oui, pour ceux qui ne savent pas, The Event, c'est un événement de streaming de jeux pendant un week-end organisé par un streamer de Twitch avec tous ses amis, de très nombreux streamers. Lui, il s'appelle Zerator et il lève chaque année, enfin de plus en plus. Cette année, c'était plus de 5 millions pour Amnesty International. Il change d'organisme pour lequel il lève de l'argent à chaque année. Et 5 millions, ça a presque doublé, j'exagère, mais à peine par rapport à l'année dernière. C'était impressionnant, on en parlera dans le rendez-vous jeu de la semaine, évidemment. Bon, écoutez, on va parler de l'annonce des différentes annonces qu'a fait Apple en live sur YouTube, que j'ai streamé moi aussi sur Twitch, mais qui visiblement est striké quand on restream l'événement d'Apple directement. Donc, j'ai dû faire un petit montage en HTML en 2 minutes pour avoir le stream d'un côté et le live de l'autre pour que les gens puissent suivre. C'était très, très drôle. On m'a prévenu juste avant le stream. Merci à Rich d'ailleurs qui l'a dit. Mais bref, on va parler de tout ça. Juste avant, quand même, remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, comme Kevin J, Ubi Redoff, François Van, Jean-Philippe Biegs, Mathieu Negri, Thomas, Travis Van Nimwegen, Bruno Fourcroy, Benoît Matisse, Cuervo et les producteurs qu'on remercie chaque mois, Lancelot Davizard et Marie El Ederi. Je ne sais pas si je dois le... Ça a l'air d'être un nom du Moyen-Orient, donc je me demande si je ne devrais pas dire Marie El Ederi. Mais je ne sais pas. Peut-être que tu pourras me dire, Marie. Merci en tout cas à toi et à tous ceux qui soutiennent l'émission. Marion, on entend quand tu cliques. Ton micro prend absolument d'accord. Toute la pièce. Donc, fais si tu peux te muter ou faire attention. Alors, les annonces d'Apple, on vient au cœur de cet épisode. D'abord, on peut peut-être évacuer rapidement le HomePod mini, qui est un HomePod mini, qui a les fonctionnalités de l'HomePod, du HomePod, c'est-à-dire concentré sur la qualité du son et, avec, et sur les interactions avec Siri, sachant que bon, le son pour un mini appareil de ce type-là, on ne sait pas à quel point il sera excellent, mais le prix est peut-être la chose la plus surprenante de cet appareil. Il est à $99, donc un petit peu plus de 100 € par chez nous. Et puis, il y a une fonctionnalité qui est marrante, qui est l'interphone. L'interphone qui vous permet de communiquer entre les différentes personnes qui sont connecté à l'écosystème Apple. Bon, je crois qu'il n'y a pas mille choses à en dire de cet HomePod mini, mais peut-être que toi, il t'a tapé dans l'œil et que tu veux absolument l'acheter à l'instant où il sera disponible.
Alors non, disons qu'en effet, je songeais à me munir d'une enceinte, pas forcément connectée, mais d'une enceinte portable ou en tout cas petite. Mais évidemment, moi, je suis sur Spotify et vu le nombre de playlists que j'ai, je vois d'ici la galère que ça sera de changer de plateforme. Donc, je suis pas prête de changer. Et ce qui est intéressant quand même de noter, c'est évidemment de voir quelles sont les plateformes de streaming qui sont prévues sur le compatible HomePod mini. Et donc là, ce qui a été annoncé, c'est Apple Music et dans les prochains mois, Amazon Music. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ont pointé du doigt le fait que Spotify n'avait pas du tout été mentionné de la keynote. On connaît un petit peu le froid qu'il y a entre les deux sociétés pour les pourcentages sur l'App Store et les achats in-app, etc. Mais en tout cas, ça n'est pas complet. Enfin, ils n'ont pas complètement fermé la porte à Spotify, quoi. Donc, je voulais juste apporter cette petite nuance parce qu'on a vu pas mal d'articles sur le fait que ah mince, Spotify sera pas disponible, etc. C'est juste que ça n'a pas été annoncé et le HomePod Mini reste ouvert aux applications tierces.
Intéressant à noter, effectivement, à voir, parce que effectivement la dispute avec Spotify est beaucoup plus large que simplement le fait d'être ou de ne pas être sur le HomePod mini. Mais disons ouais. Qu'il reste relativement limité en l'état. C'est sympa d'avoir Amazon Music, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'utilisent, mais ce n'est pas le gros acteur ou l'un des gros acteurs du domaine. Moi, je vois bien cet appareil comme des HomePod supplémentaires dans une maison qui a déjà des HomePod. Bon. Voilà, c'est...
Toi, t'es pas tenté?
Moi, je suis pas très enceinte connectée et je me demande si ça serait vers celle-là que j'irais si j'étais enceinte connectée. Mais en même temps, c'est tellement intégré à l'écosystème Apple. C'est vrai que l'interphone, par exemple, qui était assez marrant, on dit à Siri, préviens tout le monde que c'est l'heure d'y aller. Et Siri va annoncer sur tous les HomePod de... le message qu'on lui a dit de dire, donc ça peut être pratique. Je crois qu'Amazon fait déjà un truc un petit peu similaire, mais là, ça peut aussi utiliser les AirPods.
C'est ça.
Par contre, il y a une puce qui permet de détecter la proximité des autres appareils. Je n'ai pas l'impression que ça puisse détecter l'appareil de la personne qui est là et que ça dise sur le HomePod uniquement si la personne est dans la pièce. C'est vraiment, ça diffuse, d'après ce que j'ai compris, à tous les HomePod de la maison. Donc, ce n'est pas non plus hyper dirigé. Donc, ça...
Alors, tu peux choisir.
On peut le faire comme ça.
En fait, ouais, exactement. Moi, je croyais que c'était ça au début, c'est-à-dire que ça diffuse partout où ça peut. Mmh. Et en fait, j'ai vu que tu peux spécifier en fonction des pièces de la maison, par exemple, ou la personne que tu vises.
Donc, tu peux peut-être dire dans la chambre de telle personne, mais si c'est en fonction du téléphone, est-ce que le téléphone est à côté? À la limite, autant l'annoncer sur le téléphone. Mais en même temps, c'est un petit peu invasif. Si ça le dit, si ton téléphone se met à te dire un truc super fort sans que tu l'aies autorisé, c'est un petit peu plus invasif que si c'est l'enceinte dans laquelle tu écoutes. Ouais.
Ce qui est intéressant avec l'enceinte et les AirPods, c'est qu'en fait, tu es déjà en train d'écouter quelque chose. Mmh. Si c'est activé, hein, tu es déjà en train d'écouter quelque chose. Le téléphone, c'est... Imagine, tu es en réunion et tu as un message à ta femme qui arrive un peu personnel. C'est un petit peu gênant quand même.
Effectivement, il faudrait peut-être mieux éviter. Je suis en train d'imaginer le type de message qui pourrait arriver et... il vaut mieux pas. Bon, en tout cas, je pense pas que c'est la fonctionnalité qui va faire acheter des HomePod aux gens, mais c'est un petit truc sympa en plus.
Montre aussi le pouvoir quand même de l'intégration d'Apple sur ce type de fonctionnalité. Quand on peut comparer Amazon par rapport à Apple, même si c'est sorti après, hein, je reviens pas dessus, clairement, Apple a un vrai avantage par rapport à Amazon. L'intégration sur les smartphones, les AirPods et les enceintes, c'est assez remarquable.
C'est vrai qu'Amazon avec Alexa a une fonctionnalité qui s'appelle Announce qui fait à peu près la même chose, mais c'est bien sûr sur les enceintes uniquement. Donc, c'est pas tout l'écosystème comme c'est le cas d'Apple. Donc, le gros morceau, c'était bien sûr les iPhones et il y en avait plus d'un, il y en avait même quatre. C'est une quantité de téléphones assez inattendue de la part d'Apple. Enfin, attendue parce qu'on le savait, parce que ça avait leaké, mais on n'a pas l'habitude qu'ils nous sortent quatre appareils d'un coup. Et en fait, il y a deux tailles pour deux appareils, si on schématise un petit peu. Il y a d'une part l'iPhone 12 et d'autre part l'iPhone 12 Pro. L'iPhone 12 est décliné en version plus petite, iPhone 12 mini, et l'iPhone 12 Pro est décliné en version plus grande, qui est l'iPhone 12 Pro Max. L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro font à peu près la même taille. Ils ont un nouveau design, enfin à peu près la même taille, sauf que le 12 est un petit peu en plastique, donc il est un tout petit poil plus épais. Attends, je dis en plastique, est-ce que c'est du plastique ou du verre ?
Non,
c'est du verre. C'est du verre, mais il fait genre 1 mm de plus. Par contre, la taille de l'écran est la même sur les deux appareils. Et puis, c'est ce nouveau design avec les bords qui sont plats. On dit nouveau, mais ça fait un petit peu penser à l'époque des iPhone 4 et 5. Donc, bon, c'est « what is old is new again ». On a l'habitude de ce genre de trucs dans le design et dans la mode. Mais ça permet de réduire, en fait, la taille des appareils tout en soit gardant la même taille d'écran qu'avant, soit en l'augmentant un petit peu. Dans le cas de l'iPhone 12, on a la même taille que l'iPhone 11 et la même taille d'écran que l'iPhone 11, mais un appareil un tout petit peu plus petit. Et dans le cas de l'iPhone 12 Pro, on a un appareil qui a l'écran un petit peu plus grand que l'iPhone 11 Pro, mais avec un appareil qui est quasiment de la même taille, on va dire. À côté de ça, les choses intéressantes, c'est, bon, nouveau processeur, bien sûr, hein, le A14 Bionic, qui est déjà dans l'iPad Air 4, qui est un monstre de puissance, surtout en mobile, mais pas forcément uniquement. On a également le MagSafe, qui est une nouveauté intéressante, c'est des aimants qui sont sur le dos de l'appareil, qui va vous permettre d'attacher magnétiquement un chargeur, mais pas seulement. Il y a tout un tas de petits accessoires supplémentaires comme boîtiers de protection, bien sûr, mais aussi il y a un petit porte-carte qui peut s'attacher comme ça magnétiquement. On peut imaginer qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux accessoires qui vont arriver. Le MagSafe, bien sûr, c'était l'une des innovations matérielles les plus intéressantes des Mac d'une certaine époque. C'était vraiment un truc hyper bien conçu et c'est assez cohérent de l'avoir sur les téléphones également. Ils ont évidemment fait un énorme ramdam sur la 5G. On peut discuter de l'exagération qu'on a pu avoir dans la présentation. Il y avait beaucoup de « dans les conditions idéales », ça vous donne ces vitesses incroyables. Bon, c'était marrant. Et dans les conditions idéales, comme on en a parlé à plusieurs reprises, c'est surtout dans le cas de la 5G millimétrique qui ne sera pas disponible en Europe. C'est-à-dire que la 5G millimétrique ne sera disponible sur les iPhones que aux États-Unis, et à vrai dire, c'est un petit peu compréhensible, en tout cas dans le cas de l'Europe, parce qu'on n'a pas encore du tout de prévision précise sur l'arrivée de la 5G millimétrique. Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, la 5G existe en deux catégories, en deux types. Il y a la 5G en ultra-wide, donc en ondes un petit peu plus large, des fréquences plus basses, qui est, disons, une 5G qui est une amélioration de la 4G actuelle. Et puis, il y a la 5G millimétrique qui a des avantages et des inconvénients par rapport à la 5G, entre guillemets, normale. Les avantages, c'est que ça va beaucoup, beaucoup plus vite, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus vite. Et les inconvénients, c'est que, étant donné que les fréquences sont plus élevées, eh ben, les ondes sont beaucoup plus sensibles aux obstacles et aux intempéries. Donc, en gros, on n'a pas la 5G millimétrique chez nous. Elle ne nous manque pas encore. On verra si elle arrivera un jour. Et les iPhones ne seront pas équipés de toute façon. À côté de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre tu sais quoi ? Je vais te demander à toi ce que tu as pensé de ces annonces. J'ajoute juste une dernière chose. Le focus des appareils en version pro a vraiment été la photo. Ils n'ont qu'à parler quasiment que de ça, que de la photo. Et ça semblerait être la seule différence entre les pros et les pas pros. Et certains diront que c'est une différence qui ne vaut pas son prix. Mais la puissance de l'appareil est assez impressionnante avec ce processeur. Elle peut éditer sur l'appareil des vidéos qui sont en 4K et en HDR, et ce qui est incroyable, quoi. Une vidéo 10 bits HDR Dolby Vision éditable sur l'iPhone, c'est complètement fou. Maintenant, est-ce que ça va servir à qui que ce soit ? Je ne sais pas. mais bon, quelles sont tes impressions alors sur tout ça ?
Écoute, il y avait quand même pas mal de choses. J'ai trouvé que la présentation, en tout cas, de cette année était particulièrement intéressante pour plusieurs choses. Parce qu'en fait, je la résumerais comme une année de transition. Pourquoi ? Parce qu'il y a une transition sur la notion de chargement avec le MagSafe. On sent que Apple est en train de très intelligemment préparer le terrain pour enlever le port Lightning l'année prochaine et permet à ses partenaires de tout ce qui est matériel, enfin tout ce qui est équipement, coque, câble, etc., de se préparer au changement avec l'arrivée du MagSafe, un nouveau standard propriétaire, nouveau, entre guillemets, nouveau, hein, mais nouveau dans le cadre des iPhones,
standard propriétaire qui vont pouvoir s'approprier. Oui, voilà. Le nom n'est pas nouveau, mais le type d'utilisation est complètement nouveau, ne serait-ce que parce qu'avant, ça ne s'appliquait pas sur les Macs, ce n'était pas du chargement sans fil. C'était juste que le câble était connecté magnétiquement, mais ça restait un câble normal. Là, c'est effectivement du sans fil.
Oui, tout à fait. Et on est sur la même notion de sécuriser le chargement pour qu'il soit plus simple et qu'il ne se rate pas, quoi. Et sécuriser aussi l'appareil. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que le chargement sans fil, moi, j'en ai beaucoup entendu parler. Il y a pas mal de personnes qui l'ont testé, etc. Mais c'était jamais réellement adopté parce que pas très fiable, parce qu'en effet, on ne positionnait pas très bien. Du coup, on se retrouvait avec l'appareil à moitié chargé ou pas du tout chargé, etc. Et là, même si j'ai entendu pas mal de personnes critiquer Apple en disant qu'il n'y a rien de nouveau, ben là, c'est vraiment une démonstration de comment Apple peut rendre une technologie qui déjà existait et qui va être potentiellement adoptée par le grand public ou de manière plus large parce que bien conçue. Là, c'est peut-être mon âme de designer qui parle, mais j'avoue que moi, c'est quelque chose qui m'a ravi. Enfin, quelque chose de bien pensé, où on n'aura plus à se prendre la tête et à millimétrer comment on pose son appareil sur le chargeur. Ça peut paraître complètement anodin, et pourtant, en fait, c'est crucial à l'adoption de ce type de chargement, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Patrick.
Ouais, bah écoute, c'est vrai que c'est hyper bien conçu. Il y a la question écologique qui se pose évidemment parce que le rendement du chargement sans fil est moins bon que celui du chargement filaire. Le MagSafe est censé améliorer ce rendement justement parce que tu es toujours pile bien situé. À voir si ça sera. J'imagine que ça sera pas aussi bon rendement, enfin que le rendement sera pas aussi bon qu'en filaire, mais peut-être qu'il sera moins, qu'il gâchera moins. À voir. Peut-être qu'il faudra des tests un petit peu plus poussés pour ça. Et c'est vrai que c'est bien conçu, c'est certain. Et moi, je ne pense pas qu'ils vont virer les ports Lightning dès l'année prochaine, mais peut-être dans 2 ans, ça ne serait pas du tout impossible. Et c'est vrai que ça ouvre la porte à tout un tas d'idées différentes. On peut par exemple imaginer des accessoires qui vont accrocher le téléphone à n'importe quel endroit. On a déjà des concepts ou même, enfin, c'est pas encore en vente sur le site d'Apple en tout cas, mais des appareils qui vont t'accrocher le, ou peut-être qu'il est juste pas en vente en Finlande où j'ai dû payer mon téléphone, mais sur dans la voiture par exemple. Les porte-téléphones dans les voitures, c'est toujours oui. une prise de tête. Il y a des petits crochets, il y a des machins, ça se casse la gueule. Avec un aimant, c'est beaucoup plus simple, effectivement. C'est malin, je suis d'accord que c'est malin, et pas que pour le chargement. Pour le chargement, bien sûr, mais pas que pour ça. Donc oui, moi, je trouve que c'est un beau design, on va dire. Et...
Ouais, c'est malin, et puis c'est vraiment très stratégique. C'est-à-dire qu'ils arrivent oui. à négocier la transition d'un point de vue collaboration avec les partenariats qu'ils peuvent avoir avec les autres constructeurs, ou les constructeurs d'équipements tierces, ils vont réussir à pas se les mettre à dos et encore leur donner une nouvelle opportunité de concevoir toute une galerie de petits équipements pour le grand public. Donc ça, c'est vraiment assez remarquable, moi, je trouve.
Et puis, c'est vrai que si tu dis aux gens « on vous change le port Lightning en quelque chose d'autre », genre le port, je sais pas moi, SJ pour Steve Jobs, tu vois, c'est hommage. Eh ben, ils vont dire, mais attends, bon, si c'est Steve Jobs, peut-être que les gens seront contents, quoi qu'il arrive. Mais je veux dire, oh, encore un port, il faut racheter des câbles, machin, c'est relou. Alors que là, on te le vire et on te met le MagSafe. En pratique, c'est un accessoire différent qu'il faut acheter. Mais comme c'est ça va de côté, quoi. Donc, c'est un petit peu moins gênant. Et puis, les données sont transmises en sans fil, de toute façon, depuis longtemps pour la plupart des appareils. Donc... Enfin, pour beaucoup d'usages, c'est vrai qu'il y aura des usages pour lesquels ça ne sera pas pratique. Mais... Une note d'ailleurs sur la question écologique, ils ont confirmé qu'il n'y avait plus les chargeurs avec l'appareil. Donc, bon, ça, on
mais
a déjà
il n'y a plus les chargeurs ni les écouteurs, oui.
C'est ça. Enfin, en France, on aura quand même les écouteurs parce que c'est obligatoire. Oui. Mais le chargeur, par contre, je crois que ce n'est pas obligatoire. Donc bon, ça c'est tous les téléphones. On peut dire aussi que le mini est tout petit par rapport aux autres appareils récents. Il n'est pas aussi petit qu'un iPhone 5 quand même, qu'un iPhone 5S, mais il est quand même beaucoup plus petit que le modèle 6 à 8. Donc pour ceux qui aiment les appareils un petit peu plus compacts, ça peut être un achat intéressant. Et puis surtout, il n'a aucun compromis avec l'iPhone 12, le grand frère, pour un prix beaucoup plus ramassé. Et puis, l'iPhone 12, quand je dis le 12 mini n'a aucun compromis, c'est exactement le même. Alors, il y a peut-être quelques trucs minimes, hein, mais c'est vraiment le même
la
modèle.
La batterie, par exemple.
Voilà, c'est à ce niveau de différence. De la même manière, entre le 12 et le 12 Pro, il y a quelques différences. Il y a un stabilisateur qui est sur le capteur plutôt que sur l'objectif sur le 12 Pro Max, ce genre de choses. Mais j'ai vu beaucoup de gens dire qu'en fait, le 12 Pro n'était pas vraiment intéressant par rapport au 12 parce qu'il a très peu de choses en plus. Alors, il a un objectif de plus et quand on se rend compte que les avantages, entre guillemets, du Pro, c'est vraiment concentré sur la photo, on peut se dire que oui, bon, c'est intéressant d'avoir un objectif en plus. Mais entre le 12 et le 12 Pro, il y a très, très peu de différence. Quoi. Justifier la différence de prix est compliqué, je crois, pour... Pour certains acheteurs, je pense que ce n'est pas vraiment cohérent de regarder le 12 Pro plutôt que le 12.
Oui, je pense que ça tiendra peut-être au nombre d'appareils photo présents sur l'appareil, peut-être, puisqu'il va en avoir 3 au lieu de 2.
Ouais.
Mais c'est vrai que autant on peut comprendre plus facilement pourquoi les gens iraient vers un 12 Pro Max, que ce soit pour la qualité des appareils photo en général ou même la taille tout simplement de l'appareil. C'est vrai que là, la différence est quand même beaucoup plus simple à voir. Pour le 12 et le 12 Pro, c'est un peu plus compliqué. Je dirais que ceux qui n'ont pas forcément un focus photo ou qui n'ont pas trop d'intérêt sur la photo avec le smartphone, le 12 Pro est largement suffisant. Pour ceux qui veulent des belles photos, clairement, ils iront vers le 12 Pro, quoi. Oui. Ceux qui veulent vraiment le top du top en photo, parce que comme tu l'as dit, c'est vraiment là que se tient la différence.
Le 12 est à 800 euros, le 12 Pro est à 1150 euros. J'ai enlevé 10 euros pour le principe, mais on est à peu près à ça. 809 contre 1159 euros, ça fait quand même une sacrée différence de prix. Bon, moi, je me suis dit, comme un bon pigeon que je suis, mais je veux avoir les meilleures photos possibles parce que c'est des moments incroyables qu'on ne, n'aura plus jamais l'occasion d'avoir. Donc, oh, allez, je vais prendre le 12 Pro. Et puis bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ah oui, mais bon, mais c'est quand même, mais oh, je veux quand même celui qui est mieux. » Et de toute façon, le, si vous voulez le mini, il faudra attendre un petit mois avant de pouvoir l'acheter. Et le Pro Max, enfin plus maintenant parce qu'on est déjà à une semaine de l'annonce, mais le Pro Max également sera un petit peu plus loin dans les précommandes. Je pense que de toute façon, maintenant que les précommandes ont ouvert, tous les téléphones sont en livraison dans plusieurs semaines. Donc, c'est pas pour tout de suite, quoi qu'il arrive.
Et toi, t'en as un qui t'a plus intéressé que les autres ou tu restes sur celui que tu as ?
Non, moi je viens de dire, je me suis précommandé, enfin je me suis commandé un iPhone 12 Pro.
Ah
ouais.
Ah oui, donc finalement, t'as quand même craqué sur le 12 Pro.
Ouais, tout à fait, ouais. Justement, pour cette question de photos, tu vois, je me dis, bon, je vais avoir les meilleures photos possibles.
Et puis, tu auras le capteur LiDAR aussi. Enfin, c'est intéressant. Encore une fois, c'est une année de transition, c'est-à-dire que ça ne sert pas à grand-chose, entre guillemets, cette année, mais c'est pour préparer le terrain pour les années à venir.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé du LiDAR, qui est donc ce capteur radar laser qui permet de déterminer très 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 précisément la distance à laquelle sont différents objets. C'est celui qui est utilisé pour le Face ID, pour faire un modèle 3D de votre visage qui soit reconnaissable avec précision. Et ben là, il y en a un qui est sur le dos de l'appareil, qui peut permettre notamment de faire de la réalité augmentée de manière assez efficace. Il était déjà sur le dernier iPad Pro, mais c'est pas uniquement pour la réalité augmentée, ça peut également permettre d'améliorer les photos, parce que quand on sait à quelle distance sont les différents éléments de la photo, ben ça peut permettre de soit de les traiter différemment, soit de les mettre en focus différemment. Et clairement, oui, la photo et la vidéo, c'est un élément qui a été essentiel pour moi, d'autant plus que je fais mes vidéos YouTube, elles sont faites avec mon iPhone. Donc, c'est un truc qui est effectivement important. Sachant que moi, mon iPhone que j'ai, l'iPhone que j'ai aujourd'hui, c'est un iPhone 10, dont l'écran est cassé depuis plusieurs mois. Donc, bon, voilà, je me suis dit, c'est le moment de changer. Mais c'est vrai que j'aurais pu prendre un 12, hein, je pense que j'aurais pas été horriblement handicapé. C'est un petit peu, je sais pas, par gourmandise que j'ai pris un 12 Pro. Et puis pour ces histoires de photos.
Mais je pense que c'est intéressant, le LiDAR, il y a des usages encore qui ne sont pas hyper répandus aujourd'hui ou qui vont venir avec peut-être des nouveaux appareils qu'Apple nous prépare. Mais j'en discutais avec un collègue qui est un peu bidouilleur et lui, typiquement, c'est quelque chose pour les imprimantes 3D qui l'intéressait énormément. Puisque ça va permettre de mapper l'empreinte d'un objet beaucoup plus, de manière beaucoup, beaucoup plus précise et pouvoir l'imprimer en 3D chez lui, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un cas d'usage que je n'avais pas forcément anticipé, mais vu que le LiDAR permet de mieux mapper et de voir la différence de champ mais à un degré de finesse beaucoup plus précis, ça a complètement son sens.
Ouais, je suis pas certain que ça aura des usages très grand public, on va dire.
Pas pour l'instant, je pense pas, non.
Ouais, moi je suis pas hyper convaincu par l'utilisation de la réalité augmentée à ce stade du tout, même pas sur les téléphones. Ça aura plus de sens sur les lunettes de réalité augmentée. On avait parlé il y a quelques semaines du projet de Facebook en ce sens, qui était assez intéressant dans ce qu'il essayait de faire. C'est un projet de recherche. J'imagine qu'Apple a le même genre de projet dans les cartons, ou plutôt dans les labos. Mais en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que je ne suis pas convaincu que le LiDAR aura vraiment des usages pour le grand public sur l'iPhone. Peut-être sur un autre appareil à terme, mais pour moi, ce n'est pas un argument de vente essentiel sur les téléphones. Mais bon, peut-être que les premiers tests me donneront tort et qu'on verra que ça améliore les photos de manière impressionnante et qu'il y aura des usages différents au cours des mois. Mais bon, je suis un peu...
Oui, je pense qu'ils en sont conscients. Hein. Ils en ont parlé pour la photo parce qu'ils tirent parti de cette technologie qu'ils sont en train de développer pour d'autres raisons. Puisqu'ils ont dans les cartons un projet justement de lunettes de réalité augmentée, mais a priori, mais c'est un prétexte, ça se sent, hein, c'est un prétexte juste pour avoir, commencer à avoir des appareils qui embarquent cette technologie comme ils l'ont eu pour l'iPad, et ils s'étalent pas trop, enfin ils s'étendent pas trop hein, d'ailleurs sur le sujet.
Ouais, c'est vrai, ils en ont pas parlé énormément. À noter que les iPhones précédents sont encore disponibles à des prix réduits. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez encore avoir ces appareils-là. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va refermer cette longue discussion sur Apple et on va parler du portail vers l'enfer. Mais avant ça, je voudrais juste vous dire un tout petit mot sur Patreon et... peut-être vous parler spécifiquement du premier niveau de soutien que vous pouvez donner sur Patreon. C'est le niveau Patriot One. C'est comme ça qu'il s'appelle, si je ne m'abuse. Patriot One, c'est le tout premier à 1 euro. Et c'est plus des dollars, hein. Vous pouvez payer en euros aujourd'hui. À vrai dire, vous pouvez payer en dollars si ça vous chante. Mais c'est en euros aujourd'hui. Et ça vous donne... des bonus qui sont vraiment sympas, même au premier niveau de soutien. À 1 euro par épisode, et ben vous pouvez avoir les émissions sans pub, évidemment, et sans cette petite partie promo que je fais au milieu. Vous avez des contenus bonus, comme des éditos, et dans plusieurs épisodes par mois, des after-shows, des discussions sur différents sujets. On a discuté, par exemple, au dernier épisode, on a discuté de... pourquoi est-ce qu'on est-ce que la communauté tech a un tel attachement à Apple ? Je me suis retrouvé sur Discord avec des auditeurs de l'émission et on a parlé, c'était un petit peu plus session bar entre auditeurs, entre amis. Et on a parlé de ça, c'était hyper intéressant et on a effectivement parlé d'Apple, mais pas du tout, d'une manière assez critique et assez animée. On a parlé de l'identité des marques et de la manière dont on l'associe à notre propre identité. Enfin bref, c'était vraiment sympa. Ça c'est l'after show, il y a aussi des éditos où je vous parle de j'allais dire du revers de la médaille, mais c'est pas ça, de ce qui se passe derrière le rideau du côté de la production. Vous avez également droit à une newsletter qui est étendue, parce que la newsletter elle est très cool, mais il y a aussi des articles encore plus cool qui sont dans la newsletter version Patreon, et il y a plein d'autres petites choses qui sont accessibles même au niveau Patriot One. Et en plus de ça, hein, je vous parle des récompenses, mais le truc vraiment cool, c'est le fait que vous soutenez l'émission. Donc, si vous appréciez ce qu'on fait ici, si vous souhaitez contribuer, comme on contribuait à acheter des magazines à l'époque, eh ben, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et regarder ce niveau Patriot One. 1 dollar, 1 euro, c'est des formations professionnelles, 1 euro par épisode. Je pense que c'est une somme qui est assez abordable pour certains d'entre vous. C'est le prix d'un café en fonction de là où vous habitez. Et 1 euro par épisode, bah, c'est pour récompenser le travail sur cette émission qui demande beaucoup de travail. Donc, je vous encourage à aller regarder si entre la bonne action et... enfin non, pas la bonne action, mais entre le fait de soutenir un travail que vous appréciez et les récompenses, ça pourrait vous plaire. Donc, patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Et... vous savez également que quand vous rentrez à la maison, vous pouvez y penser quand vous mettez les clés dans le bol. C'est le Clean Patrick traditionnel que maintenant vous ne pouvez plus oublier et dont vous vous souviendrez évidemment quand vous arrivez chez vous. Merci à tous de soutenir l'émission.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, c'est quoi ce portail des enfers? C'est une expression qu'un ami à moi, un ami anglophone qui s'appelle Justin Robert Young, a créé pour décrire le moment où les réseaux sociaux se mettront à censurer des choses, parce que pour lui, c'est une boîte de Pandore qui s'ouvre et qu'on ne peut plus refermer et qui essaye de corriger des problèmes, mais qui en fait va en créer d'autres, selon lui, hein, parce que c'est impossible de décider qu'est-ce qu'on va réguler et qu'est-ce qu'on ne va pas réguler. Et en fait, ça illustre très bien cette... Je crois que je vais mettre le nom du portail des enfers ou la porte des enfers dans le nom de l'épisode. Et c'est marrant parce que dans le rendez-vous jeu de la semaine dernière, j'ai intitulé les portes du cauchemar ou un truc comme ça. Donc, ça devient peut-être un peu anxiogène. Bref, de quoi est-ce que je suis en train de parler ? Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, un ou deux mois de ça, Twitter avait mis un label sur un tweet du président américain Donald Trump. Et je vous disais à ce moment, OK, là, c'est un moment monumental pour la tech et pour les réseaux sociaux. Et ça va avoir des conséquences dans les semaines, les mois et les années à venir. Et bien là, on est à l'accélération de ces conséquences. Je pense que si vous écoutez l'émission, vous avez senti le truc venir. Mais on a eu des annonces de différents réseaux. Enfin bon, les gros, hein. J'inclus YouTube dans le lot. Des annonces de contrôle, de suppression de contenu controversé. YouTube a annoncé qu'ils allaient supprimer des contenus, bannir des contenus comme QAnon, dont on parle depuis des semaines dans l'émission. Twitter a annoncé qu'ils allaient, comme Facebook, supprimer les contenus qui nient l'Holocauste. Facebook a annoncé la chose également il y a quelques temps. Il y a eu une controverse avec Twitter qui a supprimé un contenu, ou en tout cas limité la diffusion d'un contenu, non, ils l'ont bien bloqué, du New York Post sur la famille du candidat à l'élection américaine Joe Biden. C'est son fils, je crois, Hunter Biden. Bref, la nature des choses qui sont bloquées n'est pas aussi importante que le fait que, ça y est, maintenant, les réseaux sociaux sont vraiment en train de se lancer dans cette course ingagnable à la suppression de contenu inacceptable. Et je choisis ces mots avec précision, parce que c'est vrai que la course est ingagnable et l'intention est de supprimer les contenus inacceptables. Et vous vous souvenez, si vous écoutez l'émission depuis longtemps, que cette idée que les réseaux sociaux devraient décider de ce qui est acceptable ou pas m'était très inconfortable. Et je crois que la plupart des observateurs du monde de la tech étaient assez mal à l'aise avec l'idée que Twitter allait bloquer du contenu, que YouTube allait bloquer du contenu sans décision de justice. Et tout le problème est là, en fait. C'est que pour certains d'entre nous, dont je fais partie, la constatation d'aujourd'hui est différente de celle de l'époque. C'est-à-dire qu'on a, et c'est vraiment, j'insiste, hein, c'est la question importante dans ce débat aujourd'hui. Certains d'entre nous estiment que ces contenus, je dis inacceptables, mais peut-être que je devrais dire dangereux, ces contenus dangereux sont problématiques, et le fait de dire « bon, ben, il faut que Twitter, Facebook, YouTube les suppriment » au risque, même en prenant le risque que par moment il y ait des contenus qui soient supprimés par erreur, eh bien, c'est acceptable parce que les contenus sont tellement dangereux qu'on peut accepter ce risque. Et moi, je fais partie de ce camp. Parce qu'on a, constaté, après des années de pratique sur les réseaux sociaux, que ces conspirations ridicules et nocives et toxiques, je parle de QAnon là, mais on peut parler de choses beaucoup plus palpables, comme tout simplement le racisme, le sexisme, le déni de l'Holocauste, etc. Ça, au lieu d'avoir été mis, présenté au grand jour et... inciter les gens qui partageaient ce genre de contenu ou qui adhéraient à ce genre d'idées à confronter le public et à se dire, à être, comment dire, poussé vers l'ombre et vers l'abandon. Enfin, le fait que ces idées s'atrophieraient quand elle serait montrée au grand jour, s'est révélée inexacte. Au contraire, elle ne s'atrophie pas, elle se répand encore plus. Et donc pour moi, le danger social de ne pas les combattre au risque, effectivement, de supprimer des contenus qui ne mériteraient pas d'être supprimés, eh bien ce danger est trop grand et compense l'idée de se dire « bon bah ok ». On va peut-être aussi donner certaines clés à ces réseaux sociaux et ils feront des erreurs parfois sur certains contenus qu'ils n'auraient pas dû supprimer. Et du coup, on peut dire que c'est un petit peu de la censure. OK, on peut le comprendre. Mais le risque d'avoir certains contenus censurés alors qu'ils ne l'auraient pas mérité est moins grand que le risque de voir continuer à se diffuser ces idées toxiques et nauséabondes. Ce n'est même pas une question de nauséabondes, c'est des idées dangereuses, y compris si vous êtes, je ne sais pas moi, si vous êtes très dérangé par cette idée parce que vous dites que votre opinion politique risque d'être affectée. Et il en existe à droite comme à gauche. Ce n'est pas qu'une question d'extrême droite. Il y a aussi des gens qui sont contre cette idée parce qu'ils sont dans des catégories politiques qui se sentent visées. C'est même pas que ça. C'est des théories du complot comme QAnon qui se diffusent et qui ont un vrai impact sociétal dangereux. On pense, par exemple, aux antivax qui se diffusent également. Et quand on lève les bras au ciel en disant « Ouh là là, nous, on doit toucher à rien » et qu'on constate année après année qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à ces idées parce qu'ils les ont rencontrés sur les réseaux sociaux, alors oui, ça fait un petit peu élitiste qui décide de ce qui est vrai ou pas, mais il y a une méthode scientifique derrière. Et quand ça peut être le cas et quand il y a une problématique claire, je crois que le danger est plus grand de ne toucher à rien que quand on va toucher un petit peu et faire des erreurs. On va viser que les trucs qui sont les plus clairement dangereux, et peut-être qu'on va en attraper d'autres dans le filet, mais le danger de les laisser se diffuser, on le constate, est plus grand. Alors ça, c'est mon opinion, mais l'opinion inverse, je pense, est assez présente aussi et valide également, d'une certaine manière, l'idée que si on donne les clés de la décision à ces réseaux sociaux, eh ben, au-delà même du fait qu'ils vont faire des erreurs parfois ou en fonction de la morale de qui ils vont décider de ce qui est acceptable ou pas, eh ben, on leur donne les clés du discours public, en quelque sorte. Et je crois que ces idées, si elles ne sont pas fausses, sont un petit peu exagérées. C'est pas faux, mais c'est pousser un raisonnement à l'extrême pour le contredire. Donc, je suis plus certain, même si j'adhérais à cette idée avant, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, je suis plus certain d'être aussi dans ce camp-là. J'ai fait une longue explication. Marion, que penses-tu de tout ça ?
Sujet compliqué, on en a déjà parlé et abordé au cours des années sous différentes formes, notamment la discussion est-ce que ces plateformes sont juste des hébergeurs ou des éditeurs, hein, c'est-à-dire qu'ils ne font juste qu'abriter du contenu généré par des utilisateurs et donc la plateforme là n'a aucune responsabilité sur le contenu qu'elle héberge, ou éditeur, hein, c'est-à-dire qu'ils ont une responsabilité justement sur le contenu présenté. Je pense qu'on a beaucoup ergoté sur si c'était l'un ou l'autre, avant de faire finalement face à l'évidence, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. On essaye toujours désespérément de se raccrocher à des modèles connus. On l'a fait de tout temps, et c'est le premier réflexe, évidemment, qu'on a pour essayer de comprendre quelque chose. Mais il faut avouer aujourd'hui que les réseaux sociaux ne sont pas des journaux, ne sont pas non plus juste une plateforme, et ils influencent aujourd'hui tu parlais de discours...
public, sociétal, quoi.
Voilà, exactement, discours sociétal, public, il l'influence, il le formate d'une certaine manière, et donc on ne peut pas rêver d'un Internet complètement libre, géré par des personnes qui ne vous veulent que du bien. En fait, plus c'est adopté, plus on va avoir évidemment des comportements et des effets de masse qui vont être dangereux pour beaucoup de personnes. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années, avec de nombreux exemples. Et donc là, on se retrouve avec des plateformes qui sont un peu au pied du mur, où tout le monde s'accorde à dire que c'est pas les réseaux sociaux qui devraient prendre la décision, mais les organismes législatifs traînent la patte ou sont pas forcément suffisamment réactifs, et je ne leur jette pas la pierre parce que c'est quand même un sujet très compliqué, pour définir des règles qui pourraient s'appliquer. Et là encore, on se pose la question, mais est-ce que quand on définit des règles, on les définit à l'échelle d'un pays, d'un continent, là on retombe dans le débat de qui définit ces règles. Et donc du coup, comme personne ne veut le faire, justement, les réseaux sociaux doivent s'en charger. Je pense que si elles pouvaient justement ne pas le faire, si tout le monde pouvait se mettre d'accord, ça les arrangerait, hein.
Oui, c'est sûr. Donc, moi, je pense qu'ils n'ont pas envie, hein, c'est sûr.
Oui, oui. Donc, je pense que face au fait que personne et aucun organisme bien identifié prend cette responsabilité, ils le font. Mais je suis d'accord avec toi, et je pense que c'est pas forcément c'est pas vraiment surprenant. Je veux dire, quand on se pose la question de est-ce que tout ce qui est propos qui dénie l'existence de l'Holocauste et ce qui s'est passé, c'est dangereux. Je pense que, en France, on peut pas se poser la question en France parce qu'on sait ce que ça peut entraîner, et c'est pour ça que ça a été c'est interdit. Ça fait
en France, c'est illégal, hein, donc la question est vite réglée.
En France, c'est illégal, c'est bien identifié, etc. Le fait qu'en 2020, Twitter se dise « peut-être qu'il va falloir aussi interdire ce contenu », moi, j'ai envie de te dire, oui, on se posait pas la question, en fait.
Oui, on a donc en France que... c'est un peu particulier en France parce qu'on a aussi depuis peu une loi qui impose la suppression de contenu manifestement illégal sur les réseaux sociaux en 24 heures, ou même un petit peu moins, je crois que c'est 24 heures. Donc le cas de l'Holocauste, ça serait effectivement déjà le cas. Mais le problème, en fait, je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable, c'est la conversation idéale pour ça. Le problème, c'est pas quand c'est clairement illégal, le problème, c'est quand c'est quand on n'est pas sûr. Parce que nier l'Holocauste, si quelqu'un dit, je ne sais pas moi, les chambres à gaz n'ont pas existé, ok, c'est pas compliqué, là c'est tout blanc ou tout noir, on sait. Mais il peut y avoir des discours qui vont être un petit peu plus subtils dans leur négationnisme et qui vont être plus difficiles à trancher. Et on sait qu'il y a des personnalités un petit peu controversées qui surfent sur ce genre de méthode. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Moi, ce que je dirais, c'est que, ok, admettons même qu'il y ait, 30% des contenus les plus clairement illégaux qui puissent être supprimés sans que personne ne bronche. Faisons déjà ça. Ça sera ça de pris. Et je ne suis pas contre. On arrive bien à le faire pour des sujets. Alors, je sais que c'est bateau, mais on arrive à le faire pour des sujets comme la pédopornographie et le terrorisme. Voilà, on va dire, c'est un petit peu le... J'ai réussi à faire tous les poncifs de ce genre de discussion, ok, mais il n'empêche pas que c'est justement les sujets dont on parle. C'est exactement de ça qu'on parle. Et je vous assure que si j'étais hésitant... Oui, quand on parle d'une peinture où on voit un bout de sein qui va être supprimé par Facebook parce qu'aux États-Unis, ils sont plus puritains, oui, là, il y a discussion. Mais quand on voit les conspirations de QAnon... je pense qu'il y a beaucoup moins de discussions, quoi. Donc, faisons déjà ça.
Bah, comme il y a eu la mise en place de systèmes de modération, de signalement de ce genre de messages, et qui se sont perfectionnés avec le temps pour être plus réactifs, plus musclés, etc., il va y avoir le même système dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir faire appel de certaines décisions automatiques de plateforme de manière efficace et réactive, etc. En fait, pour avoir un pouvoir de contrebalance, en fait, pour contrebalancer les décisions de ces plateformes-là. Et aujourd'hui, vu toutes les plaintes qu'on a pu voir, etc., c'est clairement pas a priori adapté ou suffisamment efficace. Et en effet, on ne devrait pas, avoir autant de cas de postes supprimés sans avoir une raison valable. Mais ça va arriver, ça va se définir. Et en fait, ça vient aussi de règles qui sont pas très bien définies aussi. Donc plus on identifie, et c'est pas tout le temps facile, hein, je dis pas que c'est tout le temps facile, mais plus on identifie clairement et on se pose pour définir quels sont les types de contenus interdits, plus on pourra accorder de temps à ce qui nécessite une vraie analyse, quoi.
Tu sais, j'aimerais être aussi optimiste que toi sur la manière dont ça va évoluer. Pour moi, la raison pour laquelle c'est un vrai problème, la raison pour laquelle c'est le portail vers l'enfer, c'est que j'y crois pas. Je pense pas qu'ils vont réussir à faire en sorte qu'on ait des règles plus définies, qu'on ait suffisamment de monde pour gérer ça de manière satisfaisante. Oui, quand il y a une histoire aussi grosse que celle du New York Post qui essaye d'influencer l'élection américaine en relayant les dires complètement insensés d'un type qui dit avoir trouvé un disque dur de Hunter Biden dans son magasin de réparation de PC parce que quelqu'un lui a amené, mais il ne sait plus qui il s'agit, etc. Bon, sur un sujet comme ça, Twitter le bloque, et puis ça fait un foin, et puis les informations personnelles qui étaient dans l'article sont diffusées tellement clairement partout que Twitter finalement dit « Ok, bon, on va laisser le poste maintenant parce que ça ne sert plus à rien, les informations privées, bah, elles ne sont plus privées tellement tout le monde les a vues ». Ok, ça va faire un foin et tout le monde va savoir si c'est justifié ou pas. Le problème, c'est quand il va y avoir 10 000 de ces suppressions par jour et que toi, tu es un petit kidam qui sort de nulle part et que tu as un contenu qui a été supprimé, ou pire, ton compte qui a été supprimé et que tu n'as aucun recours et que tu vas essayer de contacter Twitter, ils n'ont pas de numéro de téléphone, tu vas essayer d'envoyer un mail, tu vas recevoir une réponse automatique comme c'est le cas avec d'autres services et comme c'est le cas chez YouTube.
J'ai eu le cas, hein. J'ai essayé de contacter Twitter ce week-end.
Bah voilà, tu vois, tu reçois une réponse automatique. Merci de votre machin. La raison de votre truc, c'est tel article aligné à temps.
J'ai une page 404.
Bah voilà, tu vois, exactement.
C'est encore mieux.
Et donc, c'est ça, en fait, la raison pour laquelle c'est difficile. C'est que ça va pas. Ça va peut-être s'améliorer un peu, mais il y aura toujours des cas comme ça. Et c'est pour ça que c'est difficile de se dire, bon, est-ce que le dommage causé par toutes ces idées qui se diffusent est plus grand que le dommage qui sera causé par ces erreurs. Moi, je pense que
La question, elle est là. En fait, la question, c'est en effet de l'impact. En fait, c'est une question de priorisation. Hein. C'est si ça génère suffisamment d'impact négatif, eh ben, du coup, on va quand même s'attaquer au problème. Si ça ne génère pas suffisamment d'impact négatif, bon, ben, on va prioriser autre chose parce que finalement, il n'y a pas suffisamment de personnes qui s'en plaignent. Donc, en fait, c'est une question de temps. Et je dis pas que c'est idéal, mais en fait c'est comme ça que tout fonctionne, hein. On est obligé de prioriser ce qui est plus critique à un moment donné pour une société, et là clairement c'est la modération. Quand on voit les vies qui ont été en jeu, là ils sont obligés en fait d'agir, et quand il y aura l'effet inverse, c'est-à-dire des préjudices pour les personnes dont les postes ont été enlevés et qu'elles n'ont aucun recours, c'est possible que ça aille dans l'autre sens. Ça prendra du temps, mais c'est possible aussi.
Oui, il n'est pas du tout impossible qu'on se dise dans 5 ou 10 ans, bon, on a compris comment gérer les choses, on a eu des idées géniales, on a des systèmes plus intelligents qui réussissent à manager ce genre de problème. On peut revenir un petit peu en arrière, c'est tout à fait possible, rien n'est figé. Mais tu as raison, c'est vraiment un choix, c'est un choix de société. On a bien décidé de supprimer certains types de contenus, il n'y a pas de raison qu'on soit par principe interdit de supprimer d'autres types de contenus si on estime qu'ils sont tout aussi dommageables. Donc bon, on verra. La porte des enfers est ouverte maintenant, c'était surtout ça que je voulais dire, ça y est, la porte est grande ouverte. et ils sont tous engouffrés dans la brèche, et que ça soit Twitter, Facebook, YouTube ou les autres, ça y est, maintenant ils ont décidé de supprimer les contenus nocifs. J'ai vu une idée intéressante, et là c'est moi qui vais mettre mon chapeau en alu. Une idée assez intéressante de Will Oremus sur Medium, qui dit, ils sont bien gentils chez Facebook, mais ils sont quand même mis à bannir les QAnon et toutes ces autres théories de la conspiration qui sont souvent liées à la droite et à l'extrême droite. Quand ça a commencé à sembler que Donald Trump allait perdre l'élection, on aura la réponse dans 2 semaines. Mais c'est genre, quand ça a commencé à sentir le roussi, ils se sont dit « Oula, oula, attends, non, en fait, il faut vraiment qu'on monte patte blanche et qu'on se mette à être un petit peu plus strict, parce que si Biden gagne, il va arriver, il va essayer d'imposer plus de régulation, il va nous regarder d'un mauvais œil. » Bon, je vous avoue, j'y crois pas trop, mais j'ai trouvé l'idée assez intéressante.
Et moi, j'ai envie de dire « Et alors ?» Je veux dire, le climat politique a toujours influencé les sociétés, en fonction de si les régulations allaient évoluer, etc. Évidemment, les sociétés se préparent. Elles seraient stupides ou naïves de ne pas le faire. Donc, même si c'est le cas, oui, et alors, en fait.
Disons que ça change un petit peu la manière dont on voit les actions de Facebook en particulier, puisque c'est d'eux qui parlent. Mais ça implique Facebook plus que le débat essentiel lui-même.
Après, ça reste une société qui cherche à faire du revenu.
Mais c'est peut-être là qu'est le problème. C'est même exactement là qu'est le problème. Je ne sais plus où j'avais entendu cette définition. Le business model de ces réseaux sociaux, c'est de de s'assurer que nous restons énervés aussi longtemps que possible. C'est ça leur business model.
Générer des émotions fortes, en fait, pour alimenter le débat.
Et les émotions négatives sont plus fortes et plus faciles à générer. Et c'est ça leur business. J'ai trouvé la manière de le tourner intéressante. Leur business model, c'est d'énerver les gens. C'est de garder les gens énervés aussi longtemps que possible.
Et plus c'est court, plus ça fonctionne. Regarde Twitter.
Ouais. Oh, Facebook aurait quelque chose à dire là-dessus. Mais... Non, vas-y, fini.
Mais voilà, mais c'est vrai que Twitter, qui était quand même une plateforme pour les aficionados de tech qu'on aimait beaucoup, qu'on privilégiait, maintenant qu'elle a un succès peut-être un peu plus reconnu, et que surtout la viralité, la puissance virale de la plateforme Twitter est reconnue, ça part comme une traînée de poudre, quoi. Tu lances un tweet cryptique, tout le monde s'en empare, le tord et se l'approprie, et ça devient un monstre ambulant.
Les pâtes sont trop cuites. Je répète, les pâtes sont trop cuites. En tout cas, il semblerait qu'en plus des États-Unis et de l'Europe, dont on parle souvent dans l'intérêt qu'ils portent aujourd'hui à la toute-puissance de ces grandes sociétés de la tech, le Japon est également en train de s'associer au scrutement de Google, Apple, Facebook et Amazon. Donc, ça part de partout, quoi. Bon, il y a quelques petits sujets que je voudrais couvrir pour... partir sur une idée un petit peu plus, comment dire, sur des idées un petit peu plus optimistes. D'une part, il y a le premier transistor moléculaire qui a été développé et fonctionnel. C'est pas tout de suite que ça va être utilisable dans un ordinateur, mais des chercheurs de l'université de Yale ont construit un transistor moléculaire, en fait, une molécule qui peut être passée d'un état à l'autre et qui est stable dans les deux états. Alors, on n'est pas du tout encore au moment où ça va pouvoir être utilisable et on va pouvoir avoir des ordinateurs moléculaires, mais c'est une première étape qui pourrait, à terme, nous donner quelque chose d'utilisable. À terme, on parle d'années et d'années pour ça, et même de décennies peut-être. Et Nokia va installer un réseau 4G sur la Lune pour le compte de la NASA. À quoi ça va bien pouvoir servir ? Eh ben, ça va servir à tout ce à quoi sert la 4G sur Terre, mais sur une autre, un autre corps céleste. Et si vous vous dites, mais ils sont qu'à la 4G ou à la 5G, c'est prévu. Hein. Ils vont mettre à jour. Mais c'est marrant parce que, évidemment, il y a des contraintes pour l'installation d'un réseau 4G sur la Lune qui sont énormes. Et pas des moindres, c'est la contrainte de devoir résister au transport. Parce que le transport, il n'est pas de tourpeau. Ton antenne 4G, elle peut pas, elle doit être assez solide et assez stable. Donc voilà, des projets qui nous font un petit peu rêver, on va dire.
Il se prépare avant Mars.
Avant Mars ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe en Mars ?
La planète.
Ah, avant Mars, oui, d'accord. Okay.
C'est vrai que Mars, c'est un peu tôt quand même. Mais
me fais pas tousser, je suis malade, là, Marion. Mais moi je me disais, mais attends, avant Mars, alors Covid, qu'est-ce que 5G, Bill Gates, conspiration, QAnon, est-ce que j'ai raté
la conspiration de Mars?
Ah oui, bon, oh, je suis sûr qu'il y en a une dans QAnon. Hein. De toute façon, Mars et Elon Musk et Bill Gates, ils doivent bien, je sais pas, ils sont en train de faire tout ça pour s'échapper sur Mars, certainement, quelque chose comme ça.
Oui.
Bon, en même temps, Elon Musk, il veut y aller, donc. Bon, enfin, il veut qu'on puisse y aller. Quelques petits trucs en France, deux uniquement. L'application Tous Anti-Covid va remplacer l'application Stop Covid. Et donc, cette application Tous Anti-Covid, en fait, on n'en sait pas grand-chose, on l'évoquait la semaine dernière, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être une application qui va être un point d'information, un centre d'information pour pour l'évolution de la pandémie. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise idée, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile de savoir qui, que, quoi ou comment. Si c'est bien conçu, ça peut être un point central pour l'information sur ce qui se passe et ce qui se passe en France. Et puis, en plus de ça, ça fera du traçage. Et ils disent que ça fera du traçage de manière plus intelligente, avec des localisations plus précises, et le faire à tel ou tel endroit et pas à tel ou tel endroit, genre dans les bars, dans les cafés, dans les restos. Je serais curieux de savoir comment ça marche, ça, parce que, bon, peut-être par géolocalisation, ok, à voir, et qu'est-ce qu'il en est de la vie privée. On a très peu de détails de tout ça, et elle arrive très bientôt. Une autre chose qui arrive très bientôt, c'est Salto. Au moment où vous écoutez cet épisode, le service sera disponible. C'est un service de SVOD à la française, et autant j'étais très moqueur par rapport à ce service et à son concept, autant, au final, je trouve que, franchement, pourquoi pas ? Peut-être que j'étais arrivé à cette conclusion auparavant déjà, mais comme le dit très bien un article de Numérama, c'est pas vraiment... L'idée, c'est pas de concurrencer Netflix. L'idée, c'est d'offrir un service moderne et internetisé des contenus qu'on produit en France, des contenus audiovisuels et de télévision qu'on produit en France. Et du coup, si le truc fonctionne et si le contenu est là et si c'est pratique, et oui, et surtout si le prix est juste, bah pourquoi pas ? Pourquoi pas être le truc français où tous les Français se retrouvent pour avoir leur contenu français ? Moi, je trouve que c'est pas si bête que ça au final. Je suis sûr qu'il va y avoir des plantages au début, mais à terme, je peux voir que ça devienne le truc de référence pour ce type de contenu. Voilà. Eh bien, écoutez, puisque Marion n'a rien à ajouter et qu'elle estime que j'ai absolument raison à 100%, on va pouvoir arriver à la conclusion de cet épisode. Non, tu voulais me dire que j'ai tort ?
Ben, je viens de regarder. J'avoue, je me suis pas trop renseignée sur Salto. J'ai pas suivi de très très près, mais je regarde justement la page d'accueil. Je vois pas grand chose de français en programme. Hein. En tout cas, dans ce qui est mis en avant. Donc, je vois.
C'est les télévisions françaises. Hein. C'est les télévisions françaises.
C'est genre le truc françaises que tu regardes pas. Parce qu'en fait, quand tu scrolles, tu vas voir Fargo, Intelligence, une série avec David Schwimmer de Friends, tu vois Rocky Balboa, Apocalypse, tu vois Downton Abbey, là j'avoue, et t'as 1, 2, deux programmes français.
Voilà. Écoute, c'est les chaînes de télévision françaises qui sont aussi disponibles en direct, tu vois, sur le service. Moi, tu sais que...
Non, mais je ne suis vraiment pas cliente. Mais, bon, je suis vraiment pas du tout la cible.
Je ne suis pas du tout client non plus, mais il y a plein de gens qui regardent encore la télé et qui sont complètement la cible, je pense. Et le truc, c'est que quand tu veux aller regarder une chaîne de télévision en direct, si ce n'est pas sur ta télé et si ce n'est pas sur ta box Orange ou Free ou SFR ou ce que c'est... Bah, c'est hyper compliqué. Quand tu es sur ton ordinateur, tu essayes de trouver le direct de telle ou telle chaîne. Quand tu es sur ton Apple TV ou ton Android TV, c'est pas facile de trouver la bonne application. Tu as plein d'applications, une par chaîne différente, oui, etc.
C'est vrai.
Moi, je pense que ça peut donner quelque chose avec une application qui réunit tout ça. C'est l'expérience utilisateur qui est meilleure qu'elle ne l'était jusqu'ici. Donc...
Ouais, franchement, je serais curieuse de tester pour mieux comprendre leur positionnement, parce que clairement, ils ne peuvent pas se mettre en frontal de tout ce qui est Netflix et autres plateformes du genre, mais c'est intéressant comme initiative.
Je pense aussi, on leur souhaite bon courage, ils vont en avoir besoin. Bon, bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Marion, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ?
Alors, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur le live du matin à 8h de Naotech sur Twitch, j'allais dire YouTube, mais non, sur Twitch. Et sinon, de temps en temps, toujours sur la chaîne Naotech sur Twitch, en fait, on stream du Baldur's Gate aussi. Et sinon, sur Twitter, au pseudo Aizea Design.
Qui sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous avez également notepatrick.com où il y a tous les liens vers tout ce que je fais, y compris la newsletter, par exemple, que vous pouvez avoir toutes les semaines avec tous les contenus les plus pertinents de ma très grande veille. Je choisis le meilleur des dizaines, centaines d'articles que je passe en revue chaque semaine. Vous avez également les liens vers le Discord, le Twitch, le YouTube, tout ça, le YouTube. On dirait que j'ai 80 ans. Alors que pas du tout. Vers mon Twitch et YouTube et mon... C'est compliqué de dire tout ça à la suite. Et bien sûr, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Vous vous souvenez du Kling Patrick quand les clés arrivent dans le bol. Et vous pouvez donc avoir des récompenses super sympas et la satisfaction de soutenir un contenu que vous appréciez. Et en plus, en euros et en français, monsieur, dame. Salto n'a qu'à bien se tenir. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'ils sont français. Mais Patreon existe en euros et en français également, donc si vous hésitiez, c'est le moment, patreon.com/rdvtech. On vous remercie de nous avoir écoutés. Pas d'after show cette fois-ci, puisque c'est la maladie qui a gagné, mais pas complètement, parce qu'on a quand même réussi à faire l'épisode. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Grosse bise à tous. Ciao, ciao.